Paul Adam, la mésaventure. Dépouillée soudain des nuées orageuses, la lune de sa pure clarté glace les dunes, les conques des vagues annonciatrices, les terrasses musicales du casino, enfin se mirent au lisse visage de la Vierge qui, seule sur le plus haut belvédère, dresse son indécis corsage de pourpre et d'or vert dans la sérénité nocturne. La valse en bas ne cesse, et les spirales des ondes sonores rident l'air, convolent, s'atténuent en plus larges cercles qui virent et montent à l'astre. Un prétendant manqué. Oh, ni éperon, ni moustache impérieuse, ni ces doigts à bagues héraldiques qu'arbore le soupirant des rêves, pas plus que de rouges lèvres désertes à murmurer les choses des troubadours. Cependant, il était de prestance, sa barbe brésilienne semblait suffisamment représentative. On dit de très certaines rentes sur eau sulfureuse qui, chaque trimestre, naviguent à lui d'outre-Atlantique. En somme, voilà bien le dixième mot du « dur » qu'elle lui signifiait ainsi. L'éventail un peu levé sur ses lèvres méchamment rieuses, non si haut levé que le prétendu n'ait pu concevoir l'idée et l'ironie de la froide denture. Ah, maman, quel chagrin, quelle gronderie à subir, et si juste! Et ce pauvre frère, spaillant d'un lointain Sénégal, combien de temps encore faudra-t-il restreindre sa modique pension mensuelle afin de payer sans amoindrir la dot les impôts fournis par le couturier? Le pauvre frère, en un lointain Sénégal, palmiers, cactus, comme dans la serre de Madame Ephraim. Vivre dans une serre, toujours avec un grand manteau rouge, une chéchia et un sabre, oh, le pauvre frère. Mais enfin, pouvait-elle initier ce mal hirsute et velu au mystère de son corsage indécis, et devant ses prunelles charbonneuses, dérouler la noble sarabande de sa chevelure aventurine, et en cette barbe touffue, plonger l'allure impeccable de ses ongles, plutôt renier le destin. Le minuscule miroir, serti d'ivoire et blotti en sa jupe de soie bleue, ne la marque-t-il pas immuable pour toute lutte? Svelte, cuirassée d'or vert et de pourpre, les bras longs et pâles, la gorge basse, inéclose mais déjà battante sous la gaze safranée du fichu. Altièrement culmine au casse de sa coiffure un papillon de diamant. Les mille facettes des élytres rient vert et bleu à l'ampleur de la lune neuve entre les cinq étoiles d'une constellation oubliée. Sur le parterre firmamental, elle luise par-dessus les pavillons internationaux, les eaux gourmandeuses, les toits de la ville, les belvédères et les spires de la valse. Quant aux fauves étangs de ses yeux, elle craint d'y penser. Ces deux trous à l'âme la décèlent trop naïve et trop ouvertement quêteuse d'expérience. Il la désole. Mais sa bouche mince et troussée aux commissures d'un mépris aristocratique, cette bouche en découpure de plaies mortelles, rosâtres, gouachées, superlativement fines, préhensive et retenue, voilà la force. Non sans une certaine terreur de sa brusque volonté effective pour toujours, Eva songe l'occasion manquée et qui peut-être se représentera. Se laisserait-elle vieille fille et languir? Elle éploie son glauque éventail sur le sinistre de tels augures. Les branches d'écaille s'entrouvrent devant l'infini de la mer avec le bruit des foudres artificielles. D'un geste net, la Vierge décapite une fois pour toutes les fantômes errant par le vide, ces injurieux inspirateurs de craintes humiliantes et vaines. Plus calme, elle lève son buste contre l'horizon lunaire, enfouit dans sa poche le miroir consolateur, et domine irrésistiblement les bosses innombrables des dunes. Maintenant, les arpèges accélérés d'un quadrille assaillent la coupole de fer ajouré où elle a pris sa pose contemplative des soirs, l'attente de l'unique Parsifal, digne du Graal de sa vertu. Lui qui desséchera les étangs de ses yeux et cicatrisera la plaie mortelle de sa bouche avec les lectuaires des amours héroïques. Comme elle sera pure devant son cigare, néanmoins la mer déchante sa balade. Avant à considérer, elle se tord au reflet de l'impassible lune qui, ronde, blonde et judicieuse, chemina entre les parterres d'étoiles et les espaliers de planètes, très ménagères de ses rayons. Or, avec le galop furieux des légendes et un vague cliquetis de verre, apparurent sur la digue les deux cavaliers de la romance. Ils allaient en allure de poursuite. Soudain, les bras étendus, le poursuivant hurla un mot terrible et sans doute sacramentel, car le poursuivi vola net. De rage, il lança dans la mer sa cravache, puis galopa, sans plus ajouter, vers les musiques balnéaires. Eva ramenait fébrilement le limon de son fichu sur sa gorge inéclose et palpitante. Les cavaliers grandirent. Des galons brillèrent à la manche du plus proche. Aux grilles blanches du casino, l'officier sauta de selle, laissant à quiconque le soin de rejoindre sa bête, fier d'esquisser des danses plastiques et circulaires en toute initiative. L'autre, un soldat, parvint à saisir les brides du coursier rebelle et prit le chemin d'une taverne qui brillait entre les dunes. Le drame fini, les personnages disparus dans la coulisse, la mère se fâcha tout à fait. Elle gonfla, cracha injurieusement à la face placide de la lune, qui, contre l'outrage, se drapa dans le velours violâtre des nuits orageuses. Les dunes noircirent, les paysages sombrèrent, les falots du sémaphore conquirent une toute autre importance devant cet uniforme obscur que striaient les écumes livides des flots. Arraché au second éclair d'une méditation spécieuse, Eva s'étonne du sinistre décor inopinément surgi. Sa pudeur prend courroux de ne point avoir aperçu le changement de fond, l'éclipse des lumières et le fracas de l'ouverture. Car l'image de l'officier idéalement éperonné, svelte et vigoureuse, l'avait-elle eue toute cherchant à s'orienter dans les Saharas de l'avenir pour y découvrir l'oasis et le tente de leur mutuel bonheur éternel. Alors le ciel goutta. Des écus d'or s'abattirent sur les ferrures du belvédère. Tout fraîchit. La Vierge craignit un rhume et, croisant son linon hermétique, elle s'efforça par petites pincées d'obtenir à droite, à gauche, des boursouflures en soupçon de sein.
Le capitaine de Vardy, ma fille qui a bien voulu se charger d'une commission de monsieur ton frère, ma fille Eva, capitaine, et ce pauvre Charles, que devient-il? Donc chaque jour, levé à 8 heures, en peignoir cuivre sur le balcon de l'hôtel des océans, Suez à la mer bleue, au ciel bleu, aux dunes blondes, et puis l'attendre en mordillant les feuilles des camélias trépassées au dernier bal. L'attendre comme ça tous les matins, la coiffure en déroute et qui bat aux brises, elle un peu brune, mate, cheveux couleur d'aventurine, devant cette nature dodue, blonde en robe bleue, oh, le plus efficace des contrastes. L'attendre, se rappeler sa bague massive héraldique, tout comme dans le rêve, et ses doigts longs aux ongles courbes, et puis se dire très bas, comme il récite le roman de la rose de sa bouche diserte aux choses des troubadours, tout comme dans un rêve, revoir en soi ses cheveux courts, rares, quand il s'incline, ou lorsqu'il se place dans la lumière, mais en somme indiquant plutôt une nature bien affinée au laminoir des illusions. Horreur, les gens bien portants, et qui s'affichent, et qui mangent, et qui boivent, et qui rient, et qui rament, et qui nagent, et qui dansent. Lui, correctement, mesure ses ébats, avale ses pilules, de très petites pilules d'argent dans un mignon flacon de verre bleu, colporte des sels anglais. Sans fioriture, sans pose de triton souffleur de conque, il barbote dans la mer en deçà des perches indicatrices. Deux valses le soir avec elle. Un quadrille pour sauver les apparences avec maman ou une amie de maman. Hosanna, la famille. Environ 30 000 livres de rente, fils unique, autant après la mort du père, si vieux déjà. Dans 3 ans au plus tard, les cierges funéraires et le défilé pompeux des carrosses noires. Alors Paris, le faubourg, les premières et le turf. L'attendre, l'attendre. Par la digue dès 9 heures, lui, sur son cheval Isabelle, aux fines jambes resurcelées, bête de verre filée et à peine sortie de l'ouate des boîtes, fauve et d'or comme les aiguillettes d'état-major à l'épaule du cavalier. Et derrière, haussant ses pupilles épaisses de gazelle, caracole l'inévitable soldat madré, maure, qui, au désert, par des exploits de paladin, sut reprendre Jean de Vardilly aux mains mortelles des Touaregs. Une familiarité, une affection grande lie le capitaine au soldat. Il se murmure des paroles étranges de langue arabe. Et le musulman, parfois en costume natal, drapé d'amples manteaux blancs de voile, surgit inattendu. Plus on n'aperçoit que lèvres incarnadines décloses sur le lisse des dents et les immenses pupilles à cils lourds. Alors Eva, tiens la madone noire. Et d'un sourire, d'un geste long, l'homme caresse l'air en soufflotant des mots. Telles attitudes de cet être la déroutent comme chose mal définie, semblant offrir double sens. Elle a mésèse devant ce corps doux et qui darde des regards si elle s'oublie tendrement au bras du fiancé. Pourtant, elle n'osa rejeter son cadeau, bracelet en noyau de sculpture savante qui parfumèrent violemment sa peau, son linge, ses coffres. Le parfum de harem s'attacha, adhéra. Maintenant il gêne, comme d'une présence humaine espionnant les actes, l'esprit, partout, toujours, cependant que, grâce dans son burnous de drap rouge, Ibrahim passe et que ses lèvres aimables se choirent. Salam alek! Les guirlandes et les cloches, frais carrosses ou florales cocardes dans le tumulte, dans l'assaut des carillons. La blanche chasuble illuminante s'incline, reçoit, monte, prépare. Introibo. Devant les herses, de cierges palpitants, holocauste, en robe nuptiale, victime plus holocauste, plus palpitante et volontaire, Eva. Pleurs de maman, pâleur du fiancé, figure sage des demoiselles et splendeur des guerriers en beaux uniformes, circulairement. Kyrie eleison. À travers les gazes blanches, la taille vaillante du capitaine, sa moustache impérieuse, tout comme dans le rêve. Le Christ matois sourit au haut de la croix et la joie du soleil ravive les vieux tableaux sacrés qui se meuvent avec les ondes triomphatrices des orgues. Sursum corda. Tout ce confidençant, violet, doré, Monseigneur en éloquence, lâche une douce pluie d'éloges vers Jean, vers sa figure, la plus médaille mirée au glacis des gants blancs. Violet doré, Monseigneur, en éloquence, désigne comme sanctuaire des maternités le corsage de moire blanche, le corsage inviolablement indécis, où tentent aussitôt les regards de la foule indiscrète, étonnée. Agnus Dei, lui le révélateur, elle l'innocence blanche hostie. Au soir, le couteau du sacrifice. Cicatriser la pluie rosâtre, plaie rosâtre de sa bouche. Dessécher les étangs de ses yeux. Boucher à jamais les trous à l'âme. Benedicamus Domino. Et les ondes des orgues filtrent aux fumées des cierges où tremblent les blanches pierres du temple et l'or du tabernacle. Le couple se sonda l'âme aux oscillations des rouets helvétiques glissant contre les sucreries des monts, l'angélique des lacs à les chants stirrupeux des cascades. Parfaite convenance! Les yeux d'Eva s'assombrirent et se voilèrent d'astuce. Elle médita des noirceurs qui sauvegarderaient sa dignité au jour possible de l'attaque. Son soyeux génie laboura quotidiennement la patience de l'époux afin qu'elle rentrît au centuple. D'épreuve en épreuve, elle gradua l'élève du parfait mari. Majestueusement, elle fut la dispensatrice des baisers conciliateurs et des caresses de privilège. Son orgueil d'être indécis et virtuel, capable de toute merveille, principe et réceptacle des passions, but des prières tremblantes, son orgueil légitime de sanctuaire inviolé jusqu'au jour du triomphateur, librement choisi et consacré par les religions, lui donnèrent toute force, toute royauté, toute puissance. Sous le deuil conjugal, elle marcha, première, hiératique et sainte, daignant des soirs se révéler en complaisance et en douceur, et livrer le baume de sa chair pour panacer aux fièvres de l'amoureux capitaine. Et il ne se voulut reprendre. Par suprême courtoisie, il approuva tous les désirs et s'humilia aux plus dévouées adorations. Galamment, il prétendit que ce lui était délice, qu'on le commanda, et si parfois il se laissait rire de la haute gravité de l'officiante, il voulait aussitôt qu'on le punît d'une moue perfide, où la rose plaie de la bouche se plissait et se retirait à ses lèvres quémandeuses, où les yeux pleins d'astuces menaçaient de survengeance sa félonie. Tout parut lui plaire, l'initiation qui ne se voulait résoudre au retour. Seul un ordre impérieux des ministères le plus décidé à rejoindre la demeure ornée par les mains maternelles dans la place d'état-major. Ce premier soir, de logis stable et définitif, s'ouvre le gala de bienvenue dans l'intimité du temple nuptial. Les lampes à rose de lumière, le soyeux boudoir et se pavanent les bergeries de Saxe et les japonaises rêveuses au plateau de lac. Ce premier soir de samovar conjugal, en robe à fleurs, Eva flagelle résolument le clavecin de toutes ses bagues à palis, de toutes ses ongles en bataille. Sous sa mantille espagnole, maman approuve de la tête et son pied fripon minaude comme aux gloires d'antan. Pour cette fois, la vie va se jouer sérieusement au décor de l'intérieur conjugal. Fini les répétitions à huis clos, les bagatelles et la parade sentimentale. Voici venir l'amour de résistance, quotidien, marqué au fil rouge et parfumé de saine lavande, par crainte des mythes exotiques. Jean a son air grave de cérémonial. Doucement, il tourne les pages de la musique, l'œil au visage de sa femme, comme s'il mesurait les forces incluses en elle et leur efficacité dans les dissensions futures. Souriante, convaincue qu'il ne saura l'arcane de sa pensée, Eva lui glisse de sûres œillades, malicieuses un peu, puis interrogatives, car elle sent l'examen s'apesantir, la pénétrer. L'obstination de l'investigateur se filtre jusque l'essence féminine pour y saisir des aspects indices sur lesquels une induction se pourrait bâtir. Et dans la ronde des sonorités évoquées par les mains en apparat, les âmes s'étreignent pour une âpre lutte. Elle, qui se dérobe sinueuse et fugace, ou libre de semi-franchise afin qu'ils s'y prennent, se perdent, errent,
Et lui qui, cruellement, cherche et fouille, allait au moindre soupçon, prêt au mépris peut-être, du moins aux résolutions viriles et brutales dominatrices. Ainsi il lutte par mots prononcés à peine, et qui pour leur unique initiation signifie les principes du muet contrat discuté, conclu au mois de miel où l'époux s'amendait. Et ce subit Josaphat de leur mémoire renaissent minimes souvenirs, sourires équivoques, mots réprimés, gestes ennuyés d'autrefois. Sinistres lémures révélateurs, ils apparaissent en foule hideuse et muette à leur jugement irrévocable parmi les cataclysmes des illusions, l'effondrement de rêves. Et le samovar se mit à bouillir en tempête. Maman réveillée émit une exclamation d'effroi. Eux se séparèrent. Elle sonna, Ibrahim survint et dit à son maître des choses arabes en disposant les porcelaines sur la table. Eva aperçut qu'il était question d'elle en cette hermétique conversation. Les paroles se précipitaient, se croisaient, s'enchevêtraient. Une discussion semblait poindre et les pupilles épaisses du maure désignait par d'expressions mimiques Jean, devenu timide, livide, semblait plutôt se défendre et offrir des prières. L'impatiente mère ne remarquait rien, et de toute force elle insistait pour contraindre sa fille à lui résoudre des coupes de robe. L'âme toute meurtrie de cet aparté, Eva, feignant la plus dédaigneuse indifférence, s'appliquait à satisfaire le caprice maternel, soupesait la soie et les garnitures de son costume. Soudain, au prétexte de faire paraître la splendeur des étoffes, elle se leva, se cambra devant la glace. À travers les feuilles de palmier, elle vit les hommes en attitude méchante et verbeuse, pâles et mâles pour un combat. Mais le mot sacramentel entendu du belvédère, la nuit de leur première rencontre, elle l'entendit encore par la bouche maléfique d'Ibrahim. Encore le capitaine fut contraint de taire sa fureur. Il frappa furieusement sur la table. « Eh mon Dieu, Jean !» fit la mère. Par une brève excuse murmurée, M. de Vardilly se précipita du boudoir entraînant l'arabe. Le bruit de la dispute grandit, puis s'étouffa dans la profondeur des corridors. Au seuil nuptial où Jean la suivit, Eva compte reprendre bientôt toute sa puissance. L'absurde discussion qu'il abaissa devant ce domestique, il faut en demander rédemption, en fournir les causes, en dire les péripéties et la fin. D'une moue vague, ironique, elle pardonnera presque, non sans manifester, en quel mépris elle a tenu son mari durant les chauffourées. Peut-on s'oublier ainsi toute une heure? Comme elle réfléchissait, laissant sa main aux lèvres du capitaine, ses yeux au clair spectacle de la chambre nuptiale entièrement rosée par la transparence des abat-jours, entièrement inodorée de violettes et d'aubépines, le fort parfum de harem qui précédait Ibrahim lui vint. Aussitôt il se montra dans la solennité de ses vêtements blancs et de ses voix nouvellement revêtues. Il s'arrêta près d'eux et demeura immobile, signifia en une pose sacerdotale. Suspendu à son cou dans une gaine de cuir écarlate, luisait la lame à demi tirée d'un couteau. Ses yeux immenses fixèrent l'époux, il étendit le bras et proféra ce même mot sacramentel. Jean ne bougea, ne parla, mais seulement il reculait avec cette femme dans la chambre. Ibrahim se plaça sur le seuil et il psalmodiait. « Quitte cette femme, cette impureté, reviens à Ibrahim, écoute. » Je te chanterai les chansons du noir que tu aimais, et je marcherai devant ta monture, et les peuples s'inclineront devant toi. Viens, brute, écoute, je te conduirai à la Mecque. Tu toucheras là, pierre, tu sais subir l'enfer. Tu dormiras dans la ville sainte que jamais ne souilla le regard des roubis. Allah, comment cette fille impure a-t-elle su prendre ton cœur de guerrier? Tu étais vaillant autrefois et tu tenais ta parole loyale. Et pourquoi mens-tu comme une vieille femme aujourd'hui? Elle a prostitué son visage aux hommes avant que tu l'aies vu le premier jour. Moi, mon bras est vaillant, je t'ai délivré de la mort, j'ai tué les ennemis. Et quel sacrifice a-t-elle accompli pour toi? Écoute, par Allah, écoute. Le chef t'a ordonné le mariage dans le mois, parce que les hommes de la caserne raillaient notre amour, parce que dans la nation, il est infâme d'aimer les mâles. Bien. Alors tu as juré que tu ne consommerais pas l'union, que tu resterais à moi seul, tu l'as juré. Aujourd'hui, soit. Allez, laisse cette impureté, laisse cette souillure. Tu obéis aux oeufs, obéis-moi, parce que je suis ton maître en ceci. Oh, sortez, allez, tous les deux, allez, pour l'amour de Dieu, allez à jamais. Vous m'êtes immonde, ne me touchez pas, allez, allez. Ainsi, criante, ainsi gesticulante, Eva, gênée de douleur et de sanglots, s'effondre, véridique tragédienne, après avoir poussé le verrou sur le traître véridique. Ah, cette déroute imprévue, qui jamais eût songé? Oh, étrange interversion, où savoir? Et comment croire maintenant? Le dire? Pouvoir le dire au risque de toutes humiliations? Pouvoir, dans un corsage, frère, épandre des larmes désolées et se plaindre et condamner sans excuse. Ce fut l'impossible, l'irréalisable vœu de sa vie pour toujours, close en désespoir. Au contraire, marqué d'un visage indifférent chaque heure, sourire au spirituel réparti, battre nonchalamment de l'éventail et saturer d'odeurs fines les pièces sciée de sa présence, elle ne sent plus départir. Les jours neigèrent, neigèrent en blanc linceul. Maman pariait comme la pluie sur les toits. L'immonde époux, retourné au Sénégal, expédiait des lettres officiellement affables qu'elle lisait aux parents avec des apparences de satisfaction. Mais pas un nègre ami sous le ciel équatorial qui aida à la mort libératrice, capable de rompre le lien de honte. L'idée que cet homme l'avait eue dans ses mains, dans sa couche, palpitante et vierge, faisait jaillir de ses yeux des gerbes de larmes. Elle courait dans la chambre nuptiale, et au crisse du chevet, sans fin, elle contait l'histoire. Les pleurs lui rongèrent les paupières et les joues. Le dépit la mordait aux entrailles. Les plans et les stratagèmes si habilement ourdis durant les longues insomnies des fiançailles se dénouaient sans résistance aux heurts imprévus. Par son extrême et insoupçonnable perversité, le mal échappait à ces lacs construits suivant les avis maternels et l'expérience de féminins atavismes. Le papillon suprême cimier de son casque en tomba, un soir de douleur où elle cachait sa face de vaincue dans la grotte reposante de ses bras. Il tomba, s'émietta en mille parcelles brillantes qui reflétèrent la lune, verte et bleue, soudain montée sur les futaies du parc. Alors la récière vaincue immola définitivement ses espoirs. Dans une souffrance inlassable, elle attendit superbement la mort, d'une attitude préférée, les bras en croix, les yeux vers le ciel de lac rivé au plafond du boudoir, les chevilles pudiquement croisées, en toilette de satin candide. Parfois, au miroir, elle se donnait la bonne sensation de vertige devant les étangs profonds de ses yeux, les purs étangs drainés de toute ignorance et de toute concupiscence. Les jours neigèrent, neigèrent en linceul blanc, et maman conversait comme la pluie sur les toits. Un après-midi de thé, ses amis dirent des histoires macabres. Elle pressait Réva de payer écho à leur décaméron. Oh, quoi de plus macabre que les noces siennes! Et sous des noms supposés, dans l'amertume de sa mémoire, elle narra sa haine et les causes. Et comme on l'adula fort pour la malice du récit, comme ses amis raisonnaient des jets entrechoqués sur leur poitrine soufflante, Eva se consola, l'ayant dit.